Notre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses. Qu'elle soit de pluie, de source, de mer, vive ou stagnante, l'eau, l'or bleu de notre planète, mérite toute notre attention. Sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses, l'eau constitue un patrimoine commun à tous, dont la préservation et la gestion sont des enjeux majeurs dans les actions du parc. Aussi, depuis sa création, le parc a mené un programme d'envergure pour protéger et valoriser cette ressource. Captage, système karstique, réserve exploitable, qualité, l'eau est prise en compte dans toutes les démarches d'aménagement du territoire. Ambiance de travail décontractée mais néanmoins sérieuse autour du puits d'Aguessac, avec Claude Cobel du CIVOM Tarn-Lumansonesque, Laurent Danneville, responsable du pôle eau et assainissement au parc des Grands Causses, et Jean-François Dadoun, hydrogéologue indépendant.
On sait pas trop.
De là à là, t'as dit que t'avais une heure.
De là à là. Donc du moment où j'ai arrêté la pompe à ici,
ouais.
J'ai 35 minutes.
Ça fait une bonne durée.
C'est pas possible, c'est pas le retour de l'eau.
Non, c'est pas le retour de l'eau. C'est des changements d'évolution naturelle.
Si trempé dans le Tarn, le tuyau, j'aurais tendance à dire qu'on allait siphonner le Tarn, mais c'est pas le cas.
Non, on va éviter quand même. Hein.
Je suis Monsieur Cobel Claude, je travaille donc au CIVOM, un syndicat intercommunal, depuis février 2000. Et donc on exploite, en fait on gère l'eau de 6 communes, à savoir donc la commune d'Aguessac, la commune de Poy, la commune de Compeyre, la commune de la Cresse, la commune de Rivière-sur-Tarn et pour finir la commune de Verrières. Alors après, bon, ça reste des petits villages, aux alentours de, je veux dire, en moyenne, de entre 300 et 500 personnes. Verrières, ça aurait tendance à être 300 personnes, Compeyre, 500 personnes, et à Aguessac, un peu plus, aux alentours de 1000, je dirais. Voilà, après, la commune la plus importante, c'est Aguessac et Rivière-sur-Tarn. Quand on travaille dans une région comme ça, je veux dire, une fois qu'on a fini le travail, pour moi, j'ai l'impression d'être toujours en vacances. Parce que j'aime la nature, je suis un agent de l'environnement. Je pense qu'au niveau de l'eau, il y a beaucoup d'activités touristiques après, puisque Millau, les élus la présentent souvent comme capitale du sport. Même on a beaucoup d'activités. On a le canoë-kayak, on a les canyons dans les gorges du Tarn, enfin bon. Donc l'eau est présente aussi énormément au niveau touristique. Donc, et également par nécessité de la vie. Quoi.
Les missions principales du CIVOM, quand vous parlez de gestion de l'eau, c'est quoi ?
Alors, il faut être capable de prendre de l'eau aux différents captages que l'on a. De la traiter et de la distribuer tout en suivant la potabilité partout dans le réseau jusqu'à chez l'abonné.
Comment sont alimentées les 6 communes du CIVOM et quel rôle joue le puits d'Aguessac dans ce plan d'alimentation ?
Principalement, le CIVOM est alimenté par une source karstique qui est la source de Saint-Pierre. Elle alimente, on va dire, à 90% les abonnés. Il faut savoir que par contre en période estivale on a cette source là qui n'arrive pas à satisfaire, donc on a ce puits qui est situé donc sur la commune d'Aguessac en bordure du Tarn de rive droite, qui permet justement d'apporter cet apport en période estivale où on a un manque d'eau et ce qui permet de répondre à la demande des abonnés. Quoi.
Et alors aujourd'hui, au niveau du puits, qu'est-ce qu'il se passe ?
Alors, au niveau du puits, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à une période où On nous demande un petit peu de voir la gestion de notre eau dans avec tous les captages que l'on a, de savoir que par exemple par rapport au schéma de l'eau, si on est capable de pouvoir renvoyer, si, en cas de contamination par rapport à une source, si on est capable de renvoyer par un autre endroit, comme là on est en train d'essayer de déterminer combien ce puits qui est situé à Gueulsac, encore une fois, est capable de nous donner comme volume pour justement répondre soit au manque d'eau en période estivale ou soit d'arriver à produire une quantité suffisante s'il y a une pollution sur une autre source.
Vous travaillez en partenariat avec le parc naturel régional des Grands Causses. En quoi est-ce une ressource pour vous ?
Eh bien, donc le parc des Grands Causses, eh bien, on travaille avec eux, par exemple, comme là, pour faire ces essais au niveau du puits, pour arriver à déterminer ce que ce puits est capable de nous donner en quantité d'eau potable. Et on travaille également sur les périmètres de protection au niveau des captages, au niveau des sources, par rapport au traçage, qui nous permettent de déterminer où sont les points critiques par rapport à l'état du sol qui risque d'envoyer une contamination à la source.
De la source au robinet, en passant par les essais de puits et de potabilité de l'eau, toute action est menée avec le soutien du parc des Grands Causses. Laurent Danneville, responsable du pôle eau et assainissement au parc naturel.
Oui, il y a plusieurs missions. Il y a d'abord un aspect connaissance et protection. Hein. C'est un grand secteur du service. Et puis, il y a aussi l'aide aux collectivités, aux communes, aux syndicats, pour les aider à essayer d'améliorer la protection de leurs ressources et également essayer de trouver de nouvelles ressources ou les optimiser.
Et alors, au niveau du parc, à terme, toutes les actions et études que vous menez, elles tendent vers quel objectif ?
Alors, d'une façon générale, nous, au niveau du parc, on travaille en effet sur des grandes entités karstiques, hein, tous nos grands causses, et on essaie de connaître les bassins d'alimentation de toutes nos sources karstiques, leur vulnérabilité, les ressources qu'on pourrait exploiter, la qualité de ces eaux, forcément, pour en effet essayer de les protéger durablement, et également pour les élus d'éviter de mettre des aménagements qui ne sont pas forcément bien adaptés sur ces périmètres de protection, sur les bassins d'alimentation qui sont concernés par ces sources karstiques.
Aujourd'hui sur Aguessac, il se passe quoi exactement ?
Le syndicat, on le suit depuis quelques temps, pour différentes choses, notamment les périmètres de protection. Et c'est vrai que depuis quelques années, le syndicat, de façon chronique, a des problèmes d'eau. Les ressources, notamment les sources karstiques qui sont captées, diminuent en termes de débit. Donc avec le président et les élus, on a souhaité regarder les potentialités du puits d'Aguessac, qui existe déjà depuis une trentaine d'années. Il a été créé en 1976. Et on a voulu regarder si on pouvait tirer davantage de débit en faisant aujourd'hui des essais de pompage pour regarder le débit d'exploitation qui pourrait convenir.
Est-ce que à terme, un jour, le puits remplacerait les sources ?
Alors, c'est pas à moi de le dire. Là, ce qui est important de regarder, c'est le débit d'exploitation qu'on va pouvoir en tirer. On espère qu'on pourra en tirer davantage par rapport à ce qui est utilisé actuellement. Et après, les élus choisiront peut-être avec... Bon, je pense qu'ils garderont leurs ressources, mais peut-être ils viendront peut-être davantage ici. Ils ont d'autres actions à mener au niveau du syndicat, notamment sur les réseaux, améliorer un peu les réseaux également. Donc, c'est les élus qui choisiront un petit peu la tactique, en fait, à appliquer pour les années à venir.
Claude Cobel et vous-même parliez de périmètre de protection. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors les périmètres, bon, ça date déjà des années 60. Hein. C'est-à-dire que les collectivités qui ont des captages publics, même d'ailleurs les privés qui ont des gros captages et qui alimentent également des personnes, notamment des campings, doivent protéger leurs sources et en général mettre un périmètre immédiat. Il y a trois périmètres de protection. Il y a le périmètre immédiat qui est juste autour du captage, qui est clôturé. Hein, c'est pour protéger physiquement le captage. En général, il y a un périmètre de protection rapproché qui est un peu plus grand. Alors, d'une façon générale, il fait 150 mètres au-delà du périmètre de protection immédiat. Et là, il y a des servitudes. On fait attention, il ne faut pas construire de maison. On va faire attention aux intrants qui vont être mis. Hein. En général, on fait très attention à ces terrains. Et puis le reste du bassin d'alimentation, en général, est mis en périmètre de protection éloigné pour avoir une vision générale, en effet, du bassin et indiquer à tous les usagers de ce bassin qui sont, en effet, sur un bassin d'alimentation de source.
D'un point de vue très technique, l'étude du puits se fait à l'aide d'une pompe, d'une vanne, d'un tuyau et d'un ordinateur. Jean-François Dadoun, hydrogéologue.
Mon travail consiste en tester le puits sur différents optique, c'est-à-dire je contrôle la capacité de l'ouvrage à produire de l'eau. Je vais analyser ses capacités d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de manière à constituer une fiche d'identité de l'ouvrage qu'on va pouvoir contrôler dans quelques années pour voir si l'ouvrage est en cours de vieillissement ou en cours d'amélioration. Ça peut arriver. Donc c'est le travail qu'on va faire ces jours-ci, et divisé en deux étapes, des essais de puits qui vont caractériser les données propres au puits, les pertes de charge, et des essais de nappe qui vont donner des informations sur la nappe qui est captée pour produire de l'eau. Donc ces éléments-là vont nous permettre de dire quel est le débit exploitable de cet ouvrage-là de manière raisonnable, sans surexploiter, sans créer des conditions favorables à du développement bactérien ou autre. Voilà, qui vont nous donner tous les éléments qui vont être sortis de ces essais-là vont permettre d'assurer une exploitation optimale de l'ouvrage, quoi.
Alors par rapport au puits, quels sont les éléments les plus importants que vous analysez, que vous mesurez ?
Alors il y a la qualité de l'eau, donc la qualité à travers des analyses qui sont faites par le laboratoire départemental et des analyses que l'on fait nous proprement ici sur le terrain. La quantité donc au travers des débits exploitables, donc on va sortir les débits critiques, essayer de donner une valeur maximum au-delà de laquelle on va créer des conditions qui sont défavorables et qu'il ne faudra pas dépasser. Ça va être la qualité, le débit exploitable et les caractéristiques propres de l'aquifère. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites d'alimentation par le tarn, notamment ici, ou des limites d'alimentation par les calcaires qui sont à côté, qui peuvent nous emmener de l'eau et créer éventuellement une pollution, si jamais on a une pollution d'un côté ou de l'autre, qu'on puisse savoir dans combien de temps on aura cette pollution, si c'est possible, ou est-ce qu'il n'y a aucun risque de pollution.
Et pour la nappe, est-ce que ce sont les mêmes éléments ?
Oui, l'eau qu'on sort du puits vient de la nappe. L'eau de la nappe vient soit des calcaires, soit du tarn, et directement de la pluie lorsqu'il pleut, s'il n'y a pas de couche imperméable entre l'endroit où on pompe et la surface. Donc c'est la même eau. Donc toutes les informations qu'on sort de là, de ces essais-là, sont des informations concernant la nappe qui elle-même est réalimentée soit par les calcaires de l'étangien ici, soit par le tarn de l'autre côté.
Et après le puits, l'eau va où ?
La nappe qui est captée ici est une nappe d'accompagnement. Enfin, on estime que c'est une nappe d'accompagnement du tarn. Donc qui est alimenté par les calcaires, par la pluie et par le tarn en amont. Donc l'eau qu'on a dans le puits, elle traverse le puits et elle s'écoule en aval hydraulique. Donc elle va ressortir sur cette nappe-là, probablement vers le tarn un peu plus bas.
Les habitants des communes du Sivom, Tarn, Lumançonnesque n'ont pas d'inquiétude à avoir. Leurs ressources en eau semblent étudiées et gérées au mieux. Merci à Laurent Danneville du Parc naturel régional des Grands Causses, Claude Cobel du Sivom Tarn Lumançonnesque et Jean-François Dadoun, hydrogéologue.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du Parc naturel régional des Grands Causses.